T'es mateur, Albert.
T'es mat, Cécile.
Nous allons aujourd'hui revoir un peu de vocabulaire. Nous avions commencé la semaine dernière à apprendre le mot touriste ou encore le mot hirondelle en breton.
Oui, donc on va voir de plus près ces mots-là. Alors, on avait parlé un peu de mine dans Your Main Here. On écrit M-A-E-N et on prononce main dans la plupart des endroits. Dans certains endroits, on dit mine. Et dans le pays pour l'aide, on dit mine. Alors, au pluriel, c'est main, M-E-I-N. M-A-E-N au singulier, M-E-I-N au pluriel. Et alors, là, il y a une mutation particulière. Normalement, il n'y a pas ce genre de mutation pour les noms de choses. Et ça existe pour les noms de personnes, mais pas pour les noms de choses. Mais on dit ar vein. C'est-à-dire qu'on fait une mutation de main, M-E-I-N, en vein, V-E-I-N, après l'article. Comme si c'était un nom de personne. On dit tut un dut. Et là, on dit main ar vein. Mutation. Alors donc, les menhirs ar vein hir. C'est-à-dire les pierres longues. Alors, le mot main existe aussi dans le mot dolmen, qui est également un mot breton. Mais un dolmen, ça vient du breton un dolmen à l'époque où il n'y avait pas de mutation. Parce qu'il n'y a pas toujours eu des mutations en breton, en langue celtique. Donc, on disait un dolmen. Aujourd'hui, on dirait plutôt, dans la plupart des endroits, on dirait une dolmen, parce que tôle est féminin. Alors, donc, le mot tôle ou taoul, T-A-O-L, veut dire table, et c'est un mot féminin. Donc, après l'article, ça mute. Donc, une table, une dôle ou une daoul. Ça s'écrit T-A-O-L, et ça se prononce comme ça, un est vintain et un léon, dans les deux extrémités. Ailleurs, ça se prononce tôle. Hein? Donc, taoul et tôle. Une dôle vain ou une daoul vain, une table de pierre. Alors, une table de bois se dit une dolguate, une daoulguate, une dolguette. Mais dans certains endroits, on ne fait pas la mutation. On dit une dolquette, dolquate. Donc, les mutations ne sont pas venues partout en même temps. Où certaines ont disparu dans certains endroits. Alors donc, mais là, après taoul féminin, normalement, il y a une mutation. Donc, une dôle vain, une table en pierre, une dôle guate, une table en bois. Bon, tout ça se passe à Carnac. Alors, Carnac est formé sur le mot carn, K-A-R-N, qui désigne de gros rochers. Donc, Carnac, ac est l'ancienne forme de ec. Carnac, ça veut dire le lieu où il y a de gros rochers. Alors, c'est un nom qui a été donné probablement à cause des menhirs. Hein. Je connais un endroit comme ça, en Cornouaille britannique, qui s'appelle... Il y a Carn dedans, je crois que c'est Carn Ménébré ou quelque chose comme ça. Il y a Carn dedans et c'est une colline avec des gros rochers. Et Bray, c'est un mont. Donc, Carnbray, c'est ça. La colline s'appelle Carnbray, qu'ils disent en anglais. Alors, quand ils m'ont dit ça, Carnbray, il y a un château, puis il y a un restaurant. Ils ont dit, on va visiter ça. Je dis, Carnbray? Mais je dis, c'est une colline sur laquelle il y a des gros rochers. Ah ben oui, comment vous savez ça, vous connaissez? Ben, je dis non, je connais pas, mais enfin, c'est le nom qui dit ça. Ah bon? Ben, je dis oui, c'est du breton. Carn, c'est des gros rochers, et Bré, c'est un mont. Donc, c'est un mont avec des gros rochers. Ah, c'est exactement ça. Ben, je dis, oui, le nom celtique est resté. Et les Anglais ne comprennent pas ce que ça veut dire.
Donc, Carnac, il y a encore très longtemps, avait déjà ses pierres, ses menhirs.
Ah, ben oui, parce que ça date de peut-être 5000 ans, hein, je ne sais, c'est très ancien. Hein. Ce sont pas les Celtes, hein, qui ont levé ces pierres-là. C'était avant les Celtes. Celtes sont arrivés là-dessus après. De même, les allées couvertes qu'on trouve, par exemple, à Colpeau, à Saint-Nazaire, tout ça, ça dans les 5000 ans d'âge. Hein. Autrement dit, 3000 ans avant notre ère. C'est très ancien, ça.
Et donc, la commune de Carnac a pris ce nom-là?
Oui, ben oui, les gens ont appelé ça Carnac parce que c'est l'endroit où il y a des gros rochers, quoi. Et alors, à côté de Pont-Laurin, à côté du vieux passage, en fait, et il y a une route presque, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de maisons, quoi. Qui s'appelle Carnec. Carnec. Donc, c'est le même mot que Carnac, mais avec une évolution plus bretonne. Le hack est devenu Eck. C'est resté Carnac par l'intermédiaire du français écrit. Autrement, ce serait devenu Carnec, évidemment. Comme Calac devient Calac en breton. Mais ça reste Calac parce que c'est écrit comme ça, en français. Donc là, Carnac, c'est pareil. Mais cette rue-là, c'est Carnec, c'est-à-dire l'endroit où il y a des grosses pierres. Alors, donc... Alors, le mot « here », puisqu'on parlait de « main here »,« here » veut dire « long ». Alors, on a ce mot-là dans le nom d'une grève à l'ouest de Brest qui s'appelle « le Tressir ». Les Brestois connaissent bien ça, « le Tressir ». Eh bien, « Tressir », ça veut dire « grève longue »,« plage »,« grève »,« sable ». Et en breton, ça s'écrit « T-R-A-E-Z-H ». Donc, « 13 ». En KLT, traire en vente, T-R-A-E-Z-H. Ça désigne le sable et puis donc la grève. Et les gens, pour dire aller à la plage, dans ces coins-là, ils disent Molotentres ou Molotentraire. Et il y a une chapelle à Sainte-Hélène, là, chez nous, dans le sud du Morbihan, sur la côte. Il y a une petite chapelle près de la côte. Et moi, j'ai entendu les gens appeler ça Chapelle-en-Traire, la chapelle de la grève. Alors donc, un traire hier ou un traire hier en vente, c'est la longue grève. Alors, ce mot traire, c'est le sable. Et alors, pour dire plus spécifiquement la plage en général, on ajoute le suffixe e2n et ça fait treisen, trehen. Et ça, c'est la plage. Un dresen, un drehen, la page. Alors donc, une phrase, et Carnac, et zeus, une dresen vrave. En vente, et Carnac, et yes, une drehen vrave. À Carnac, il y a une belle plage. On pourrait dire, une drehen vrave, à zo et Carnac. Il y a une belle plage à Carnac. Bon, voilà pour, ces mots-là, hein, j'espère
et
que... Alors, il y a un autre mot pour dire sable, c'est gible. J-I-B-L. Du sable, gible. Le B, ça prononce P en final, donc ça fait gible, mais ça s'écrit gible, comme pauple, qui s'écrit pauble, quand on a beauple. Et pour dire un grain de sable, on dit urgiblen. On met E2N, et ça fait un petit morceau, un grain de sable. Urgiblen. Kals, gib, beaucoup de sable. Parce qu'après kals, on met soit un pluriel, soit un collectif. Donc, kals a vein hier, ou kals a gible. Hein. Mais si c'est un grain de sable, on pourrait mettre au pluriel et dire kals a giblen a eux. Mais là, c'est des petits grains de sable, pas très nombreux. Qui éventuellement qu'on pourrait compter des grains de sable isolés, hein. Par exemple, on dirait dire oh Giblenau zo arandol, il y a des grains de sable sur la table. Tandis que gible, c'est collectif, c'est le sable, quoi. Voilà pour ces mots-là. Donc, je crois qu'on a dit le principal là-dessus. Alors, il y a un phare qui s'appelle Armain. Alors, on ne sait pas trop, paraît-il, si c'est le caillou ou si c'est un autre mot. En tout cas, les gens disent tous Armen, mais il faudrait dire Armain, évidemment. Armain. Mais bon, les gens prononcent à la française, évidemment. L'inconvénient d'avoir des mots bretons dans un contexte français, c'est que les gens prononcent à la française et ça francise les mots, comme les bagadous. dans la gadoue. Au lieu de dire les bagates, moi je dis les bagates. Hein. Ou bien alors, un bagadou. Donc voilà, il y a une sorte d'incompatibilité. Les mots bretons ne sont pas solubles dans la prononciation française. C'est ça quoi, hein. Pas la même phonétique du tout.
Enfin bon, ça fait comme en anglais, quand on emploie un mot anglais, on le prononce en français, enfin avec l'accent français.
Oui, oui, ça, toute façon, c'est un particularisme, une spécificité française. Il y a beaucoup de spécificités françaises quand on écoute la radio et la télé. Ça, c'en est une, parce que les étrangers, en général, ils essaient de prononcer le mot tel qu'on le prononce dans la langue d'origine, mais en français, non. Et on le prononce pas non plus normalement en français, alors ça fait des trucs bizarres. Par exemple, Schumacher en allemand, le coureur là, automobile là, Schumacher. On peut pas dire ça en français, Schumacher, parce que le R n'existe pas, le R non plus. Alors, qu'est-ce qui devient ? Ça devient Schumacher, et ça rime avec démarreur. Schumacher appuie sur son démarreur. Pour être correctement francisé, il faudrait dire Schumacher, parce que le re, ben, on prononce que en français, puisque re n'existe pas. Donc ce ch-là, normalement on dit que. Un floch, on dit le floch. Un roch, le roch. Un manach, le manac. Et donc, il faudrait dire que. Et d'autre part, le er, on dit er en français, on dit pas er. On dit amer, on dit pas ameur, on dit du fer, on dit pas du feur. Alors donc, on devrait dire Schumacher, si on prononçait correctement, hein, le coureur Schumacher. Et les Italiens disent comme ça, Schumacher, ils cherchent pas à dire à l'allemand, ils n'ont pas de son re non plus. Alors ils disent Schumacher. Ben, il faudrait qu'on dise Schumacher, quoi. Et je me souviens d'un intervieweur célèbre qui parlait du peintre Mahler en l'appelant Malheur. Le peintre Malheur. Non, c'est, en français, il faudrait dire le peintre Malheur. Parce que le ER fait R, il fait pas heure. Bon, voilà, une petite, digression à propos de la prononciation. Donc, d'une langue à l'autre, on déforme les prononciations. Alors, bon, maintenant, le mot touriste, c'est un mot international, mais d'origine anglaise. Hein. Ce sont les Anglais qui ont créé le mot tourist. Alors, tourist, à partir du mot tour, T-O-U-R, a tour, qui en anglais veut dire une excursion, un voyage. Et on le trouve dans a tour operator. Un tour operator, c'est un organisateur de voyage. Et en français, on dit un tour opérateur. Un tour opérateur. Pour dire un tour opérateur, il faut chanter Veni Creator. Alors donc, on déforme les mots comme ça. Et alors donc, tour operator. À partir du mot tour, eh bien, celui qui allait faire un tour comme ça, ils l'ont appelé un touriste. Et son activité, c'était tourism ou encore touring. L'action d'y aller, c'était touring. Et ça donnait the touring club. Hein? Club de tourisme, touring club. Alors, bah, ce mot-là, c'est un mot international. Donc, il est aussi breton que français. Hein? Alors donc, les mots ist sont accentués sur la syllabe X. Donc, ist, donc un touriste. Inventait une touriste, parce que le ST se dit ch'te, inventait une touriste, et le pluriel de ces mots en i se fait en et, touristet, touristet, un touristet. Et bah, le mot tourisme, bon, c'est un mot international, et alors il y a le mot touristerer, touristerer, touristeres, qui désigne l'activité du touriste. Donc, qui est masculin. Un touristeres, un touristerer, c'est donc touring, le fait de faire du tourisme. Et alors, dans certains dictionnaires, on trouve un mot malencontreux, pour ne pas dire un pataquès, et qui est touristeles, Touristeller. Et ça ne veut pas dire tourisme. Bah, si on considère le sens du suffixe LS, LR. Touristel, Touristel veut dire touristique. Et donc, Touristeller, Touristeller, c'est la touristicité. C'est-à-dire le caractère de ce qui est touristique. Donc, on va faire de la touristicité. Non, on fait pas de la touristicité, on fait du tourisme. Alors, l'action touristerer, suffit de mettre un R à la place du L et le tour est joué. Bon, broadel veut dire national. Broadeler, broadeles, c'est la nationalité. Hein? Voilà, donc, LR, c'est un, ça forme des noms abstraits, souvent IT en français. Voilà, touristerer, donc le tourisme. Alors, c'est un nom masculin de personne. Si on, après l'article, on va faire une mutation. Touristet, un durichtet. Et après kalsa, kalsa durichtet. Comme kalsa vein hier. Kalsa durichtet.
Et Albert, on va se quitter sur ces touristes très nombreux. Puisque l'heure, enfin le quart d'heure qui nous est imparti se termine. Kenavo.
Kenavo.